Alors bonjour Stéphanie Pahut, merci d'être là. On est au Tribeca, donc c'est pour ça qu'on entend un petit peu de bruit, mais je pense qu'on entendra les voix plus que les bruits.
Bonjour et puis merci pour cet échange.
Donc là vous serez invité à une de nos apéros littéraires, mais il y a déjà des livres de vous qui ont été enregistrés à la Bibliothèque Sonore. Donc on a enregistré La Normalité sans apostrophe hein, en 2015, et enfin qui a été fait en 2015, et Chérissons-nous, donc on nous parle, qui vient de sortir, donc qui va être lu. Et puis vous avez écrit aussi, entre autres, les petits traités des désobéissances féministes. Est-ce que il y a un lien entre ces trois titres et entre ces trois sujets pour vous?
Oui, il y a un lien entre les trois. Ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est comment on catégorise les gens, comment on se retrouve parfois mis sous des étiquettes ou dans des cases. Et surtout, ce qui me passionne, c'est comment on peut sortir de ces cases et puis ouvrir nos possibles, ouvrir les possibilités qui sont offertes pour se définir plus librement. Donc le traité de désobéissance, c'était vraiment sur la question des genres ou la question des sexes autour du féminin et du masculin. Après, avec La Normalité, c'était plus large. J'avais vraiment envie de me demander ce que signifiait être normal pour les gens en général, mais aussi du point de vue de plusieurs disciplines comme la philosophie ou la sociologie. Donc il y avait à la fois la volonté de définir les normes de plusieurs points de vue, mais aussi vraiment de poser la question spontanément à des gens et de leur demander s'ils se trouvaient normaux. Et puis Chérissons-nous, les choses se recoupent. C'est savoir comment on peut fonctionner avec ces normes, mais tout en s'en libérant.
La normalité, donc sans apostrophe, donc ça veut dire quoi? Comment on est? Est-ce qu'on peut être normal? Est-ce que les gens se considèrent normal? Et puis est-ce qu'il y a plusieurs types de normalité? Ou est-ce que ça vaut la peine de se poser la question même?
Alors l'idée de la normalité, c'est un ami artiste, Anthony Banvart, qui a eu cette idée-là, parce que je cherchais un titre qui permette de dire qu'il n'y avait pas une frontière entre le normal et la normale. Donc au début, j'avais pensé à normal, point d'interrogation, ou alors normal et anormal, mais ça ne fonctionnait pas. Et Anthony Banvart m'a dit, on colle tout et en majuscule, pour bien expliquer que l'histoire des normes, c'est une circulation. On est toujours jugé normal ou anormal par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui observe depuis une grille de lecture. Et il n'y a pas de normalité absolue, ça n'existe pas. Il existe des systèmes de normes, mais des normes relatives à nos comportements, des normes relatives à la beauté, des normes politiques, des normes sociales. Et il y a toujours un moment où on va se définir entre des normes. Donc c'était ça l'idée de l'anormalité. Donc personne n'est normal ou anormal, mais dans une grille de lecture, il sera plus ou moins normal selon les personnes qui l'observent.
Donc oui, c'est un concept qui peut osciller, qui est flou, mais il n'y a pas vraiment besoin d'être normal par rapport à une norme absolue.
Ce qu'il faut trouver, c'est comment fonctionner dans un environnement en étant soi-même à l'aise et en trouvant comment se mettre en lien avec les autres. Donc mon idée, c'était pas de dire qu'il ne fallait respecter aucune norme ou que les normes étaient mauvaises par définition. Par contre, mon idée, c'était de dire qu'il faut observer les normes avec lesquelles on fonctionne et se demander celles qui sont bienveillantes, mais pour nous et pour le fonctionnement, pour le vivre ensemble. J'aime pas tellement cette étiquette de vivre ensemble, c'est plutôt le faire ensemble. Mais c'était ça mon idée, c'était de se dire qu'il y a des normes, certaines on peut les respecter, mais on a aussi la possibilité de prendre de la distance par rapport à d'autres. Mais ce qui est primordial pour moi, c'est déjà de savoir avec quelles normes on fonctionne.
Et par rapport donc, à votre dernier livre, où il y a là une ouverture vers le fait de se chérir, justement. Et d'ailleurs, ce terme, se chérir, comment est-il venu? Et puis, se chérir, alors je précise pour nos auditeurs que c'est écrit comme chair, donc c'est H-A-I, parce que pour ceux qui écoutent, et donc il y a la notion des chairs dedans.
L'idée m'est venue en regardant un magnolia à Ouchy. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais je me baladais un matin et je trouvais le bord du lac magnifique et ce magnolia incroyablement beau. Et puis j'avais eu l'idée de partager cette photo avec des amis. Et comme on était au printemps, l'esprit qui était le mien, c'était de dire « cher printemps ». Sauf qu'au moment où j'ai entendu dans ma tête ce « cher printemps », je ne l'ai pas vu écrit CHER. J'ai vraiment vu ce magnolia qui était puissant et en chair. Et j'ai vraiment écrit sous ma photo « Cher printemps, CHIR ». Et à partir de là, l'idée m'a travaillé. En même temps, j'ai commencé à me faire tatouer. Donc la chair était présente aussi, mais par la peau. Et puis je me suis dit, mais en fait, « chérir », c'est dommage de l'écrire « CHE » accent aigu. Il y a en plus l'idée du cher, du prix. Donc, on pourrait éloigner le fait d'être bienveillant les uns avec les autres de ces considérations-là. Et on pourrait décider d'écrire chérir, C-H-A-I-R.
C'est chérir, c'est essentiellement lié à la bienveillance.
Oui, pour moi, le fait de se chérir, c'est le fait de se mettre en lien avec les autres, avec attention et bienveillance. Et c'est vraiment l'idée de prêter une attention à ce qui nous entoure, mais que ce soit notre environnement, que ce soit les êtres humains qui sont autour de nous, ou nous-mêmes, simplement. Donc se chérir, pour moi, c'est trouver comment se mettre en lien avec les autres de façon bienveillante, et en lien avec soi-même aussi.
Dans votre livre, vous explorez différentes manières, en quelque sorte, de se chérir. Il y a des rapports, justement, bon, plus à la sensualité au corps, d'autres au travail sur l'écho, le corps, sur la peau, et donc les tatouages, justement. Et quel est votre rapport avec les tatouages comme manière de se chérir ?
Pour moi, le tatouage, c'était une manière de reparler mon corps de façon plus personnelle. Pour moi, le corps, c'est comme la langue. On parle tous avec les mots des autres. Si on pense à la langue française, qui est ma langue maternelle, j'ai appris le français, j'ai appris du vocabulaire, j'ai appris de la grammaire, et avec ces règles et ces petites pièces de jeu, je peux parler. Par contre, au fil des années, j'ai trouvé comment exprimer ma voix, qui est singulière, dans cette langue de tout le monde. Et pour moi, le corps, c'est pareil. J'ai un corps, comme tout le monde, mais le tatouage m'a permis de le dire de façon un tout petit peu plus singulière. Et pour moi, c'était plus honnête aussi, parce que j'ai pu mettre sur ma peau des parties de mon enfance, des expériences plus ou moins joyeuses ou douloureuses. Et quand je me mets en conversation avec quelqu'un, j'ai l'impression d'être plus transparente, de dire « je ne suis pas quelque chose de lisse, qui n'aurait qu'une identité, mais il y a plein de choses, il y a plein de couleurs, il y a des failles, il y a des petites déchirures, il y a des cicatrices. » Et c'était une manière de dire ça, c'était de parler mon corps de façon un peu plus singulière.
Donc après, il y a dans votre livre, il y a toujours dans vos livres d'ailleurs, cette notion du rapport au genre aussi, et qui peut être, je pense, soit une prison, soit, si on le considère d'une autre manière, une libération aussi, si on n'est pas emprisonné en quelque sorte.
Donc là, vous parlez. J'ai juste pas entendu le début de la question, pardon.
Si, ces rapports de se libérer un peu des contraintes au niveau du genre, au niveau de la.
D'accord. C'est la même chose que pour les autres normes. On est avec un sexe qui est d'ailleurs pas forcément strictement établi à la naissance. Et ensuite, pour moi, ce qui est compliqué, c'est que de cette assignation de sexe vont découler des assignations de genre. Et ce qui est dommageable, c'est si on considère que parce qu'on est une femme, on doit être féminine et que de là doivent découler des comportements qui sont déjà préétablis. Donc là, pour moi, ce serait le côté prison de ces normes de sexe et de genre. Par contre, si on prend conscience de ça, on peut se dire « Ok, j'ai un sexe qui m'a été attribué à la naissance ou que je dois co-définir quand il y a des raisons médicales. » Mais ensuite, pour ce qui est du genre, je suis libre et je peux adopter des comportements qui ne sont pas naturellement associés aux hommes ou aux femmes ou au féminin ou au masculin. Donc c'est vraiment cette idée de regarder les normes pour voir comment on peut ouvrir son champ de possible.
Parce que justement, l'une des personnes que vous interviewez, c'est une personne qui est justement à la frontière, ou plutôt au-delà des frontières du genre, justement.
Vous faites référence à qui, là ?
Greta Gratos, par exemple, qui est...
Ok. Oui, alors pour Greta Gratos, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage poétique et joyeux, et qui a une conscience critique généreuse, pour moi. Donc Greta Gratos, c'est un cas particulier parce qu'il y a une notion de déguisement ou de personnage. Donc Greta Gratos, c'est un homme qui se transforme ou qui devient ce personnage de Greta. Mais les identités sont conservées. Il est à la fois Pierre-André Beau, mais à la fois Greta gratos selon les moments ou selon les contextes. Donc pour moi, c'est un très bel exemple de personnes qui arrivent à additionner des identités ou à additionner des facettes. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui brouille les frontières du féminin, du masculin, des apparences aussi physiques qui peuvent être attribuées à l'un ou à l'autre sexe ou à l'un ou à l'autre genre.
Là, bon, je vous reprends cette citation de les corps féministes, c'est un corps qui trouble les genres, c'est dans votre livre. Et comment et par rapport à quoi vous avez énoncé cette affirmation?
J'ai repris des choses que j'avais dites à propos des femmes, notamment, je pensais à ces activistes ukrainiennes qui vont utiliser des codes qui sont utilisés ailleurs. Donc ces féministes vont avoir des actions militantes nues où elles se promèneront, où elles manifesteront seins nus avec le corps parfois peint, avec des messages politiques. Donc on pourrait avoir l'impression de l'extérieur qu'elles utilisent des codes qui sont utilisés dans la publicité ou dans la pornographie, mais elles détournent ces codes pour en faire des messages politiques. Donc quand on dit que le corps féministe va troubler le genre, c'est qu'avoir de la réflexivité sur nos manières d'utiliser nos corps va permettre de questionner les normes de genre, simplement. Et il n'y a pas que les corps féministes qui troublent le genre, et tous les corps féministes ne troublent pas le genre, mais les féministes amènent une réflexion forte sur le corps qui permet à tout le monde de réfléchir à ces mises en variation.
Par rapport justement à l'utilisation du corps comme manière d'exprimer ou de sortir de ce qui est prédéfini, et il y a cette mouvance du body positif où l'on met en valeur des formes ou des corps qui ne sont pas tellement dans le norme, mais qui ne sont pas forcément non plus une chose très, très, très maligne d'après vous, il me semble.
Il y a un message qui séduit dans le mouvement body positive, c'est l'idée d'accepter tous les corps, quelle que soit leur définition, quelle que soit leur apparence. Donc ça, c'est un message auquel j'adhère, évidemment. Après, ce qui me dérange dans le message du body positif, c'est qu'il est souvent un peu hypocrite, associé à des messages commerciaux, associé à l'idée aussi qu'il faut être fier de son corps. Et pour moi, la fierté n'est pas une notion séduisante. Il n'y a pas de raison d'être fier, pour moi, de son corps. Il s'agit plutôt de l'accepter, de le trouver important et de lui accorder de l'attention. Mais la notion de fierté, c'est l'inversion de la honte et je ne suis pas à l'aise avec cette manière de considérer le corps. Et puis l'autre chose, c'est que dans le mouvement body positive, je pense qu'il y a pas mal d'hypocrisie aussi, où il faut croiser des approches sociologiques, mais médicales aussi, et ne pas résumer la question du corps à celle des apparences.
Ça peut être dangereux aussi, certains encouragements à aller vers les extrêmes aussi.
Ça dépend. Le mouvement body positive se décline vraiment de manière multiple. Donc il y a des déclinaisons qui sont plus ou moins saines, mais celles qui incitent à rester dans certaines postures corporelles qui sont dangereuses médicalement me paraissent effectivement contre-productives. Donc c'est vraiment l'idée de... Ce qui me dérange, c'est quand on fait comme si le corps était défini une fois pour toutes. Donc s'accepter comme on est, par exemple, pour moi c'est un message qui est trompeur et qui est dangereux, parce qu'on n'est pas une fois pour toutes. S'accepter comme on est, pour moi, ça prend pas sens, parce qu'on est sans cesse en train de devenir. Donc une apparence corporelle peut être acceptée un moment, mais il y a toujours la possibilité de la modifier. Donc c'est le côté fixe ou définitif de ces mouvements qui peut me déranger aussi.
Justement, à la suite du body positive, vous parlez du body négatif. Vous parlez de quelque chose qui est, enfin, que vous connaissez bien, qui est l'anorexie comme manière d'expression, comme langage. Quelle est votre vision de cette problématique?
L'anorexie, c'est une question qui est délicate. Je l'ai mise sous body négativité parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de négation du corps dans l'anorexie, puisque les corps sont, en tout cas dans l'image générale de l'anorexie, décharnés et semblent arrêter, semblent ne plus vouloir communiquer. Et ce que j'essayais de montrer dans le livre, c'est que derrière les pratiques anorexiques, il n'y a pas forcément la volonté de se retirer du monde, mais c'est comme une forme de silence pour moi, de dire je n'arrive pas à communiquer avec les normes environnantes je n'arrive pas à parler la langue qui m'entoure, donc je vais me taire. Et pour moi, il y a ça dans l'anorexie, c'est une façon de mettre son corps en silence, de le soustraire à cette pression normative. Mais il n'y a pas forcément derrière les pratiques anorexiques la volonté de se retirer du monde. J'associerai pas ça à des pratiques. Certains pensent que les anorexiques sont des gens qui utilisent une forme de suicide à petit feu, et c'est des images qui m'ont souvent choquée, parce que dans les pratiques qui étaient autour de moi, je ne lisais pas ça. Et c'était aussi une manière de dire, les corps anorexiques méritent d'être écoutés, entendus et ont des choses à dire. Donc c'était aussi pour moi une manière de dire, ne pas catégoriser les anorexiques en ayant un discours médical extérieur, mais prendre le temps d'écouter ces corps et de les comprendre.
C'est quelque chose dans le livre, en tout cas, vous laissez entendre que vous avez vécu cette expérience aussi.
Oui, c'est une expérience par laquelle j'ai passé quand j'avais 19 ans. Donc pendant une année, j'ai pesé vraiment très peu. Mais c'était l'époque où je commençais mes études. Donc j'avais pas du tout l'idée d'arrêter de vivre. Simplement qu'il y a eu ce moment de silence où j'arrivais pas à fonctionner avec les normes qui m'entouraient. Après, c'est plus facile après coup d'avoir une lecture critique aussi. Mais sur le moment, je ne voulais plus simplement fonctionner avec les normes qui m'entouraient. Donc c'était une manière de mettre en veille, hein. C'est de mettre en veille l'organisme aussi. Après, je pense qu'il y a une forme d'hypermaîtrise derrière l'anorexie aussi. On refuse ce qui vient de l'extérieur et on essaye de fonctionner en vase clos. On se rend assez vite compte que ça ne fonctionne pas et que la seule solution, c'est de se réouvrir et de retrouver des formes de dialogue et de lien.
Dans un registre un peu plus positif, mais dans le bon sens du terme, il y a dans votre livre des différents registres du plaisir l'un pour les autres. Donc là, il y a différentes manières d'explorer cela. Il n'y a pas des normes là non plus.
Dans le livre, j'avais vraiment envie de montrer comment on pouvait mettre de la joie dans nos quotidiens. Et pour moi, la joie, elle peut passer par la littérature, par le plaisir charnel, par l'amitié, par la découverte de la parentalité, par l'exploration de la nature. L'idée, c'était vraiment de montrer plein de chemins possibles pour se lier à son environnement de façon positive. Donc pour moi, là, il n'y a pas de normes non plus. Mais la seule chose, c'est vraiment cette attention qui lie toutes ces pratiques, de dire je prends le temps de me demander comment je me situe dans mon environnement et avec moi-même. Et une fois qu'on a pris ce temps-là, qu'on est conscient des normes qui nous entourent, essayer de trouver, on a chacun une marge de manœuvre par rapport à ce qui nous entoure, même quand on a l'impression d'être dans des situations inextricables ou terribles ou tristes, on a toujours un petit peu de jeu quand même autour de nous. Et prendre le temps de s'arrêter, d'observer et de se dire comment est-ce que je peux remettre un tout petit peu plus de joie dans mon environnement, je pense que c'est important de le faire.
Par rapport à ces pratiques qui, vous savez que maintenant il y a beaucoup de philosophes du bonheur, etc., qui prônent, et quelle est la différence dans votre manière d'envisager cette bienveillance à tous ces philosophes du bonheur et d'un peu léger?
Le coaching est très à la mode, on nous propose de trouver le vrai bonheur, de vivre la vraie vie, de trouver son vrai moi. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de position dogmatique dans mon livre. J'ai pas de solution, je ne sais pas où aller chercher le vrai bonheur. Je pense que toutes ces choses n'existent pas. C'est peut-être un projet qui est plus humble, c'est simplement de dire on a tous des choses à notre disposition, des environnements, et on va vraiment s'ancrer les pieds sur la terre et regarder ce qui nous entoure. Donc c'est peut-être ça, c'est que je ne propose pas de solution miracle et que je ne me pose pas en position de surplomb avec des jugements moraux ou des solutions toutes faites. C'est ça la différence. Et c'est de dire, c'est aussi d'être conscient. Le livre ne dit pas que c'est possible d'être complètement heureux tout le temps. Le livre dit qu'on évolue tout le temps, qu'on est sans cesse en train de se définir. C'est vraiment cette idée qu'on n'est pas une fois pour toutes prédéfinie et pour toute la vie. Donc c'est peut-être ça la différence, c'est de reconnaître qu'il y a des choses difficiles, qu'il y a des choses joyeuses, mais qu'on peut être acteur de tout ça, au centre de toutes ces configurations.
Et juste à la fin de votre livre, je suis en train de faire une petite description très générale, mais les gens vont les lire, enfin l'écouter. Et il y a cette manière d'épilogue, un retour, une mise en garde sur une manière de se chérir en faisant attention. Parce que vous faites allusion aux maladies transmissibles, il y a la manière de se protéger. Et comment ça s'articule avec les restes du livre?
Pour moi, c'était fondamental. J'avais envie de dire aux gens qu'il fallait se chérir, mais pour moi, ça aurait été irresponsable de ne pas dire aussi que se chérir, c'était faire attention aux autres, et faire attention, c'est les protéger et se protéger aussi. Et comme il y a des chapitres qui sont des chapitres de littérature érotique, où il est question de rapports charnels, pour moi, c'était impensable de ne pas dire que quand on voulait mettre en pratique ces rapports charnels, il fallait aussi avoir ce souci de se chérir, mais dans des conditions qui nous permettent de ne pas tomber malade ou de ne pas se mettre en danger. Donc c'était vraiment chérissons-nous, c'est aussi ne pas se mettre en danger, et c'était, pour moi c'était incontournable cette question-là de la protection des maladies simplement.
C'est tout un ensemble, et je reviens un petit peu sur la question de la bienveillance, parce qu'il y a une personne parmi celles qui interagissent dans les livres qui fait la différence entre complaisance et bienveillance. Ça peut s'appliquer à plusieurs choses, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la nuance ou la grande différence qui existe entre les deux?
C'est Myriam Mora qui a écrit un chapitre autour de la différence. Moi, je peux donner ma propre vision de cette différence, mais pour moi, la bienveillance, c'est d'accorder du temps, de l'écoute et de l'attention aux autres. Mais ça ne veut pas forcément dire trouver des autres formidables et leur envoyer des messages positifs et élogieux tout le temps. Et la complaisance, à contrario, ce serait de ne pas prendre ce temps de l'attention, de l'écoute et de la compréhension, mais de simplement renvoyer des messages assez rapides qui semblent positifs, mais qui seraient sans contenu ou sans attention.
Donc c'est une des personnes qui intervient dans les livres, parce que le livre, il est conçu, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, il y a un échange, il y a vos opinions, vos points de vue, mais aussi des personnalités qui interviennent. Il y a Beck BD, connu, enfin Kino, c'est des personnalités un peu plus, peut-être plus confidentielles, mais tout aussi intéressantes au niveau de la neurologie. Il y a un psychiatre, un neurologue, je crois, il y a différentes personnes, il y a une linguiste justement. Donc il y a comment ça se conçoit vos livres, parce que en général, bon, en tout cas les trois livres que j'ai lus sont conçus autour des livres coraux, il y en a un ensemble. Oui.
C'est aussi fondamental pour moi, ça, c'est que je pars toujours d'une idée qui me vient mais qui touche les gens qui sont autour de moi, et je ne me vois pas dire des choses toute seule sur ces thèmes. Donc pour moi, c'est capital qu'il y ait des voix qui viennent dialoguer, qu'il y ait de la conversation, qu'il y ait de la contradiction aussi, ne pas donner l'impression qu'il y aurait une solution pour une question, mais de montrer que les points de vue sont multiples et de laisser la place aussi aux voix qui ne sont pas d'accord. Pour moi, c'est fondamental. Donc c'est non seulement la multiplicité des points de vue, mais aussi l'existence du désaccord qui est fondamental pour converser. Et l'idée de casser aussi certaines hiérarchies. Je travaille à l'université, donc parfois il y a des chercheurs qui travaillent avec moi dans mes projets, mais j'ai pas du tout envie de hiérarchiser les voix, et j'ai envie qu'il y ait des écrivains, des poètes, des gens qui sont labellisés scientifiques, mais des voix ordinaires, et il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les voix ont la même place et ont la même importance pour moi. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner au quotidien, c'est que j'ai des gens autour de moi qui viennent de tous les cercles, et j'aime bien les intégrer dans mes projets, quelle que soit leur profession ou leur notoriété. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont connus et d'autres confidentiels, mais dans ma vie de tous les jours, ça ne fait pas de différence, et j'aime bien l'idée de mélanger.
C'est cette notion aussi de chérir, de s'ouvrir à tout.
Et c'est ce que j'explique à la fin, dans la conclusion. C'est, pour moi, ce qui est fondamental, c'est la notion de rencontre. Mais on peut rencontrer un livre, on peut rencontrer un paysage, on peut rencontrer quelqu'un, on peut rencontrer un enfant. Et moi, je fonctionne comme ça depuis tout le temps, ce qui rend ma vie plus jolie et qui me permet de me découvrir et de moi-même être plus bienveillante au fil des années, c'est les rencontres. Donc c'est une manière aussi de prolonger ce processus-là, de permettre à des gens de rencontrer les rencontres que moi j'ai faites. Donc c'est une idée de cercle vertueux, j'espère.
De transmission.
Oui, d'échange, parce qu'il y a des rencontres que j'ai faites, comme celle de Christophe Tison, au travers de ses livres, Résurrection, où il m'aimait, qui ont vraiment modifié ma manière de concevoir des choses ou même d'agir au quotidien. Et je me dis, si pour moi cette rencontre a été importante, peut-être qu'elle peut l'être pour quelqu'un d'autre et qu'on peut faire circuler ces choses. Moi, j'adore quand on me fait découvrir des choses et j'aime bien l'idée d'être plutôt une passeuse. J'aime pas trop l'idée de dire que j'ai des idées à donner, mais plutôt l'idée de passer d'autres idées.
Je ne l'ai pas dit au début, je ne suis pas un très bon intervieweur, mais vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, donc vous êtes linguiste, et vous enseignez français, langue étrangère, mais d'une manière très, très large, très ample, après ce que j'ai compris.
Oui, je suis linguiste et j'enseigne la linguistique, mais dans la section des lettres qui est ouverte aux étudiants non francophones. Ce qui fait qu'il y a des cours qui sont à la fois des cours de langue, où on va travailler autour de l'écriture, de la lecture, de l'écoute. Et puis il y a des cours qui sont consacrés au lien entre langage et identité, au lien entre langage et normes. Donc c'est une réflexion plus générale sur la place des langues dans nos vies et la place aussi de la pluriculturalité et des compétences qui sont plurilingues.
Et le corps aussi, c'est un langage, donc c'est un peu ce que vous dites aussi à travers votre livre.
Il y a les deux choses, c'est que moi j'aime bien l'idée de considérer le corps comme une langue qu'on va pouvoir parler, et c'est une langue qui nous parle aussi, le corps nous parle, dit tout le temps des choses de nous ou sur nous. Et puis après, on pourrait aussi travailler sur le langage du corps. On peut penser à la danse, au sport, aux émotions. Donc après, il y a une multitude aussi de messages qui sont véhiculés par ce média qui nous met en lien et qui est le capteur le plus évident de ce qui nous entoure.
C'est un peu les sous-titres du livre. Donc, chérissons-nous nos cœurs, nos corps nous parlent. J'ai dit cœur, c'est un lapsus.
C'est presque pas un lapsus, c'est cœur, corps, c'est pas très dissocié dans ce message. Mais il y a le double sens de nous parle. C'est vraiment nos corps nous parlent, nous donnent des messages, mais c'était plutôt dans l'autre sens pour moi. Nos corps nous parlent, c'est nos corps nous expriment, disent des choses de nous et nous racontent aussi. Donc c'était une transgression grammaticale, parce que le verbe ne s'utilise pas comme ça, mais nos corps nous parlent, c'est vraiment nos corps disent des choses sur nous. C'est pour ça que ça vaut la peine de lire et d'écouter le corps des autres qui nous dit aussi des choses.
Ok, chérissons-nous, c'est nous et chacun et nous pour les autres aussi.
Pour moi, c'est indissociable. Chérissons-nous, c'est prendre soin de soi, mais c'est évidemment prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et l'un va pas sans l'autre pour moi. Donc c'est vraiment le lien avec soi et le lien avec les autres. Et c'était aussi pour m'inclure, parce que les messages qui sont dans le livre, je me les adresse et je me les rappelle aussi quand j'oublie parfois d'être assez attentive. Pour moi, c'est pas une fois pour toutes qu'on a compris qu'il fallait être attentif ou bienveillant, mais c'est vraiment chaque jour, on peut se demander comment être plus attentif et comment mettre plus de bienveillance dans son quotidien. Donc c'est vraiment un livre qui est aussi performatif et je m'adresse ces messages pour être, pour avoir plus de bienveillance autour de moi aussi.
Mais écoutez, merci beaucoup, ça a été très bienveillant. Tu as venu envers moi et envers les bruits environnants. Et puis on s'est réjouis de vous retrouver en janvier à la Bibliothèque Sonore. Merci beaucoup Stéphanie Pape.
Merci pour cette conversation.